19h30 à Paris. C'est donc l'heure du débat sur RFI.
Le débat du jour. Alexis Guilleux.
Un jeune tué lors d'un passage à tabac à la sortie de son collège à Viry-Châtillon. Une jeune fille de 13 ans agressée, là encore, près de son établissement à Montpellier. Deux mineurs mis en examen pour l'assassinat d'un homme à Grande-Synthe. Ou encore un adolescent tué après s'être interposé dans une altercation à Romans-sur-Isère. Quatre histoires, quatre faits divers de ce mois d'avril en France qui ont relancé la discussion sur une violence qui gangrènerait la jeunesse. Alors les jeunes d'aujourd'hui sont-ils plus enclins aux actes violents que les générations passées? Quelle solution face à ce phénomène alors que le gouvernement promet déjà une contre-attaque de la République et un sursaut d'autorité? Violence des jeunes, quel est le problème? Bienvenue dans le débat du jour. Pour en parler, deux invités autour de moi en studio, Christian Mouana, sociologue spécialisé dans les organisations policières, chargée de recherche au CNRS, et Muriel Aiglin, présidente du tribunal pour enfants de Bobigny, vice-présidente de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Et bonsoir également à vous, Véronique Blanchard, historienne et titulaire de la chaire enfance et jeunesse de l'Université d'Angers. Je me tourne d'abord vers vous, Christian Mouana. Vous venez de signer une tribune dans le journal Le Monde. Vous dites que les chiffres montrent que le nombre de mineurs auteurs de délits baisse. La question, c'est donc, est-ce qu'il y a un problème avec la violence des jeunes aujourd'hui en France ?
Alors qu'il y a un problème avec certains jeunes, certainement. La preuve, c'est qu'il y a les faits divers, ceux que vous avez rappelés, mais il y en a d'autres aussi, malheureusement. Il y a des jeunes qui sont violents, il y a des jeunes qui basculent dans la violence. Encore faut-il comprendre pourquoi. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on ne peut pas en conclure qu'il y ait une explosion de violence dans la jeunesse actuellement. Ça, c'est un discours construit politiquement. Ce n'est pas une réalité. Et d'ailleurs, les chiffres nous montrent plutôt une baisse des mineurs mis en cause par la police, baisse des mineurs pris en compte dans les tribunaux. Alors, où la police et la justice ne font plus du tout leur travail, mais ça semble une hypothèse peu pertinente parce qu'on voit qu'il y a une mobilisation au contraire de la police autour des opérations Place Net, des stupéfiants, de plein de dérives. Et donc, c'est peu crédible. Ou alors, c'est qu'on a effectivement peut-être une baisse ou en tout cas on n'a pas cette explosion que semble,
contrairement à ce que dit
le gouvernement, avec un discours alors qui revient tous les 6-7 ans à peu près. On a des jeunes de plus en plus violents et de plus en plus jeunes délinquants, ce qui correspond à un discours qui revient périodiquement, mais qui ne correspond pas ni à une réalité statistique, ni à ce que les professionnels peuvent constater sur le terrain.
C'est un constat que vous partagez, vous, Muriel Aiglin, par exemple, au tribunal pour enfants de Bobigny?
Oui, c'est un constat que je partage, puisque je suis moi-même juge des enfants depuis la fin des années 90. Et effectivement, ce discours de jeunes de plus en plus jeunes et de plus en plus violents existait depuis bien avant cette période-là et tout au long des années 2000. Ce que je peux dire, c'est que en tant que juge des enfants, on s'occupe à la fois de la protection de l'enfance et du traitement de la délinquance des mineurs. Et à Bobigny comme ailleurs, on voit les situations les plus violentes, on voit les actes les plus violents commis par les jeunes. Et je peux dire qu'il y en a toujours eu. Aujourd'hui, je ne dirais pas qu'il y en a davantage qu'alors, mais c'est vrai que lorsqu'il y a sur un temps une accumulation de faits, il est légitime que tout le monde se pose la question de la réaction sociale. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on voit les jeunes, mais on voit aussi leurs parents. Et ce qu'on constate, c'est beaucoup de parents qui sont particulièrement démunis, qui aimeraient pouvoir encadrer mieux leurs adolescents, mais qui ne savent pas comment poser une autorité sans violence. Et ce dont on a besoin, c'est de personnes qui puissent les accompagner et de réponses, mais pas quand le passage à l'acte a déjà été commis, bien avant, bien en amont de la prévention. Et en fait, c'est tout l'intérêt de la justice des mineurs, c'est à la fois de tenir cette double compétence de prévention, de protection de l'enfance et de traitement de la délinquance des mineurs. On peut intervenir au plus tôt.
Et sur l'aspect, on dirait, qualitatif, est-ce que la nature des violences commises par les mineurs a changé, vous qui travaillez au contact de ces mineurs depuis plusieurs années ?
Alors la nature des violences, je dirais non. On a toujours eu des situations absolument terribles avec des viols collectifs, des passages à tabac, des rixes. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de plus structuré dans le trafic de stupéfiants en tout cas sur le ressort du tribunal de Bobigny, avec tout le cortège de violences qui peut l'accompagner. Et je dirais que nos jeunes adolescents sont plus victimes de ces violences, qui sont parfois extrêmement lourdes, qu'auteurs. Mais nature des faits, non, pas réellement. Ce qu'on constate, c'est peut-être ce qui n'existait pas auparavant, c'est l'intervention des réseaux sociaux dans la dissémination des images, dans le fait de battre le rappel d'un groupe. Mais la nature est la même, puisque les phénomènes de groupe chez les adolescents ont toujours existé, et la volonté de mettre en avant des actions fortes et violentes a toujours existé aussi. Et peut-être que Véronique Blanchard pourrait nous en parler.
Je voulais lui donner la parole à Véronique Blanchard. On reviendra dans quelques minutes sur ce rôle des réseaux sociaux. Véronique Blanchard, vous signez vous aussi une tribune dans Le Monde. Vous dites que l'image d'une jeunesse violente, c'est un discours politique qui est présent depuis bien longtemps.
Oui, bonsoir à tous. Désolée de ne pas être avec vous, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à présent. Et Monsieur Moana et Madame Aiglin parlent des 20-30 dernières années. Moi, je parlerai des 200 ans qui viennent de passer. C'est-à-dire que c'est un discours totalement récurrent, à la fois la figure de la dangerosité du jeune, de plus en plus violent, ensuite le discours politique qui dit qu'il faut être donc plus dans la répression puisque les jeunes sont de plus en plus nombreux, plus en plus précoces et de plus en plus violents. Donc les figures comme ça, et ça éclot dans l'histoire à certains moments de l'histoire. Et ce qui est très intéressant, c'est alors par exemple dans les années 1900-1907, il va y avoir les bandes de jeunes qui vont apparaître en France avec des apaches très cruels, extrêmement sanguinaires et qui vont faire la une des journaux. C'est des choses qui, par exemple, se voient dans la guerre des boutons, qui pour nous est une petite fable qui a été retravaillée. Mais si vous posez les actes de la guerre des boutons et si vous les donnez à un magistrat aujourd'hui, il parlera d'actes de barbarie et de torture. Donc vous voyez, la violence et l'hyperviolence a toujours existé. Ce qui est intéressant, c'est de voir à quel moment elle est très sensible pour l'opinion publique et à quel moment, au contraire, il y a une tolérance vis-à-vis de la violence des jeunes.
Justement, est-ce que la tolérance de la société française vis-à-vis de la violence a diminué ?
C'est ça, elle fluctue. En histoire, c'est jamais très linéaire. C'est comme ça que fonctionne l'histoire. Donc, c'est plutôt circulaire que linéaire. Donc, il y a des moments où notre sensibilité est particulièrement accrue. Et donc, c'est le cas à la fin du 19e siècle. On est très, très sensible à la violence des jeunes et elle est particulièrement intolérable. C'est un moment de crise et c'est très compliqué de tolérer la violence des jeunes. Et quelques années plus tard, après la Première Guerre mondiale, parce que la Première Guerre mondiale est passée par là, la violence des jeunes n'apparaît plus du tout comme un problème social. N'apparaît plus du tout, et M. Moana pourra reprendre après moi, comme un phénomène social construit. Et c'est beaucoup d'autres choses qui vont inquiéter les Français. Et c'est le même phénomène qu'on va retrouver après la Seconde Guerre mondiale. Alors, je n'espère absolument pas une troisième guerre mondiale, mais j'espère juste qu'on puisse se rendre compte que la délinquance des jeunes et la violence des jeunes est un phénomène construit socialement. Et que ce qui change, ce n'est pas le rapport à la violence, c'est notre rapport à ces jeunes.
Voilà. Christian Moana, sur cette construction.
Oui, puisqu'on parlait de la Deuxième Guerre mondiale, il faut voir qu'on fonctionne encore sur les restes, l'héritage de ce qu'on appelle l'ordonnance de 1945, qui est le texte mis en place par le gouvernement provisoire de la République française pour répondre à ce qui est à l'époque une vraie crise néanmoins, qui est qu'on a beaucoup de mineurs qui sont abandonnés parce qu'on est au sortir de la guerre, que les valeurs morales ont complètement explosé parce qu'on a eu la collaboration d'un côté et puis la résistance de l'autre et puis la remise en cause de l'État, du gouvernement, etc. Qu'on a beaucoup d'armes qui circulent parce qu'il y a des armes qui traînent un peu partout, qu'il y a beaucoup de vols parce que les gens ne mangent pas à leur faim. Et dans ce contexte-là, il y a un gouvernement provisoire qui dit non, on a besoin de nos jeunes, on va les traiter plus sur un mode éducatif que répressif. Et c'est pas pour refaire l'histoire, mais pour montrer qu'il y a des choix politiques qui sont, est-ce qu'on va considérer nos jeunes comme des gens en devenir qu'il va falloir éduquer, aider pour qu'ils s'insèrent dans la société, ou est-ce qu'on les considère comme une espèce de maladie, une bactérie qu'il faudrait combattre et confiner dans des prisons ou ailleurs?
Et quelle serait la spécificité de l'épisode qu'on traverse en ce moment?
Ce qu'on voit très bien, c'est qu'il y a des stratégies politiciennes. Il y a une présence de l'extrême droite qui monte un discours très répressif. Il y a certains médias qui font, notamment à partir de faits divers, qui font un peu leur beurre de tout ça et qui montent tout ça en mayonnaise. Et un gouvernement qui actuellement est un peu prisonnier parce que les résultats économiques ne sont pas aussi bons qu'il le pense, et qui fait actuellement une campagne sur retour de l'autorité, retour de la répression. Tel que l'a fait Nicolas Sarkozy à une période où Jacques Chirac, lors des présidentielles de 2002, c'est une stratégie politique qu'on voit généralement de la part de gouvernements qui se sentent affaiblis, qui ne réussissent pas à avoir une bonne réponse sur le champ économique ou autre.
Véronique Blanchard, vous vouliez intervenir?
Oui, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit sur 1945 et l'après-45. C'est vraiment très important de redire que la délinquance juvénile dans les années 45-50, statistiquement, explose pour le coup. Hein. C'est vraiment pas les mêmes chiffres qu'aujourd'hui. Et on est dans une société d'adultes qui se sentent responsables de l'état dans lequel sont les enfants. C'est-à-dire que cette société d'adultes se considère comme responsable de la violence des enfants. Aujourd'hui, et on peut reprendre ce que vient de dire M. Mouana avec, par exemple, aussi des propos de Nicolas Sarkozy en son temps. Aujourd'hui, on est dans une société qui pense que la responsabilité, elle n'est que du fait des enfants. Et je pense que c'est très important de réexpliquer que ces enfants, s'ils sont parfois dans une extrême violence ou dans une violence ou dans une délinquance, et je pense que Mme Aiglin pourra montrer des exemples, c'est aussi qu'ils cumulent des difficultés sociales, des difficultés psychologiques, des difficultés économiques qui font qu'ils sont dans un contexte où effectivement parfois la violence et la délinquance se développent. Et donc, peut-être que le pari social qui devrait être fait, c'est le pari d'abord de la prévention et pour ça de l'éducation. C'est-à-dire que la répression, ça arrive trop tard. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire en sorte que ces enfants n'en arrivent pas à la délinquance. Et pour faire de la prévention, il faut des moyens. Il faut des éducateurs, il faut des lieux diversifiés et variés pour que les juges des enfants puissent essayer un certain nombre de solutions éducatives. Donc on est vraiment dans la nécessité de montrer à la société que diminuer la délinquance des jeunes, c'est aussi la prévenir, c'est aussi mettre en place un certain nombre d'organisations qui permettent d'éduquer ces jeunes.
Muriel Aiglin, quel est le profil de ces mineurs auteurs de violences que vous rencontrez, vous, par exemple, à Bobigny ?
Alors, il peut être très variable. C'est vrai qu'on a une proportion assez importante de jeunes qui ont pu rencontrer des difficultés familiales et éducatives dans leur plus jeune âge. Et on a notamment des enfants qui auraient peut-être dû être aidés plus tôt, des parents qui auraient dû être accompagnés plus tôt également, mais les moyens n'étaient pas là pour pouvoir le faire. Je dois dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand un juge des enfants en matière de protection de l'enfance prononce une mesure éducative, et demande à un éducateur d'intervenir à domicile auprès des parents pour les aider à encadrer leur enfant, à mieux comprendre ses besoins, pour écouter l'enfant et résoudre ses difficultés. Eh bien, à Bobigny, par exemple, il faut attendre 14 mois avant que ça se mette en place. Et pendant ce temps, la situation se dégrade. Alors, c'est la question de la protection de l'enfance, mais je dirais qu'on constate les mêmes difficultés et les mêmes besoins non remplis en matière médicale et médico-sociale, par exemple. On a un certain nombre d'enfants avec des déficiences, avec des troubles de l'attention et de l'agitation à l'école, qui deviennent décrocheurs. Et en fait, même quand ils ont une reconnaissance maison du handicap pour avoir un soutien, eh ben, ça met un an, deux ans à se mettre en place. Et pendant ce temps, la situation se dégrade. Ils se retrouvent en exclusion. Et c'est comme ça qu'on construit le ferment d'une violence future. Je dirais que ces jeunes-là aussi sont des proies extrêmement faciles pour tous les réseaux de violence, les réseaux de trafic de stupes, les réseaux, enfin les phénomènes de bande entre communes, voire les risques de radicalisation quand il y a des craintes de cette nature-là.
Vous avez également mentionné il y a quelques minutes les réseaux sociaux. Est-ce que, selon vous, le rapport de la jeunesse à la violence a changé peut-être avec une surexposition et cet effet d'entraînement que peuvent avoir les réseaux sociaux aujourd'hui ?
Je ne suis pas compétente pour dire que tout le rapport de la jeunesse à la violence a changé.
De certains jeunes.
Ou de certains jeunes. Je dirais que les réseaux sociaux peuvent être, je dirais, un détonateur ou quelque chose qui entraîne un outil complémentaire et qui permet de donner davantage de rapidité, un côté viral à ce qui peut être exposé. Et du coup, qui permet aussi d'entraîner davantage de jeunes qui sont fragiles. De les entraîner dans des mouvements violents. Mais je pense que c'est important. Les réseaux sociaux, c'est un outil de notre temps. C'est aussi notre responsabilité d'adultes et de parents de les utiliser et d'en faire un outil éducatif. C'est la responsabilité des éducateurs de se former à leur utilisation aussi pour que ça soit un outil apaisé et pacifié pour les jeunes.
Sur ce point, sur les réseaux sociaux, Christian Moina, comment vous voyez ça avec votre regard de sociologue ?
Alors, sur les réseaux sociaux, là aussi, ça n'apporte pas forcément une nouveauté parce que les rumeurs, les embrouilles, les tensions, les on-dit, ça a toujours existé. Et on voit bien comment les bagarres de jeunes, ça existe depuis très longtemps. Les bagarres, on voit même dans la banlieue parisienne ou dans certaines campagnes, comment on en est quatrième, cinquième génération de gens qui se battent parce qu'on ne s'aime pas entre le village A et le village B. On a des phénomènes qui sont très éloignés dans le temps. Alors effectivement, comme ça a été bien dit, les réseaux sociaux, ben, déjà ça accélère le temps en quelque sorte, comme disent certains sociologues. Tout ce qui s'est allé plus dans le temps, ça devient de plus en plus rapide, d'où la nécessité aussi d'avoir des réponses institutionnelles qui soient beaucoup plus rapides parce qu'on n'a pas le temps de traîner. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'avec les réseaux sociaux, ben, on est dans la permanence. Avant, on rentrait le soir chez soi ou on s'extrayait du milieu scolaire, ça ne continuait pas. Là, avec les réseaux sociaux, c'est comme si la machine à faire du bruit continuait à fonctionner le soir. Le harcèlement, on voit bien comment le harcèlement, c'est plus seulement durant le temps de présence à l'école, ça peut être aussi chez soi parce qu'on reçoit des messages, etc. Donc, c'est ça qui change, mais finalement, sur la nature, sur les difficultés et sur les choix que doit faire la société entre intervenir tôt, faire de l'éducatif, de la prévention, de la psychologie, etc. Et puis, par ailleurs, intervenir tard uniquement à travers la répression, ben, ces choix-là restent toujours d'actualité.
Muriel Aiglin.
Oui, je voulais indiquer au sujet de cette rapidité que la justice a fait, je dirais, sa révolution de rapidité depuis quelques temps avec la mise en place d'un code de la justice pénale des mineurs qui reprend tous les principes de protection et d'éducation de l'ordonnance de 45 que citait Christian Moana tout à l'heure, mais qui permet aussi d'apporter une réponse plus rapide que ce qui était le cas auparavant, parce que la justice avait été critiquée parce qu'elle n'apportait de réponse à un acte de délinquance qu'en moyenne 18 mois après les faits. Aujourd'hui, la première réponse, c'est 2 mois en moyenne après les faits, et c'est une réponse sur la culpabilité, sur la responsabilité des parents et sur l'indemnisation des victimes. Et on a une prise en charge qui peut intervenir rapidement également.
Le débat du jour sur RFI consacré à la violence chez les jeunes. On poursuit notre discussion avec nos invités, le sociologue Christian Moana, la présidente du tribunal pour enfants de Bobigny, Muriel Aiglin, et l'historienne Véronique Blanchard. Avant de vous donner la parole, Véronique Blanchard, je voudrais qu'on écoute et qu'on évoque la réponse de l'État. Et donc on va écouter Gabriel Attal qui s'est rendu la semaine dernière à Viry-Châtillon.
Rôle des parents, addiction aux écrans, entrisme d'idéologie ennemie de la République, repli sur soi et perte d'autorité sont les défis auxquels nous devons répondre, au risque, je le dis, de ne plus être en mesure de renouer avec la concorde au sein de notre nation. Aujourd'hui, c'est la République qui contre-attaque. C'est cela que nous sommes venus lancer, la mobilisation générale de la nation pour renouer avec ces adolescents, juguler la violence, réaffirmer notre projet d'une jeunesse libre et émancipée, reconquérir le droit à la France tranquille, confiante dans l'avenir et sereine dans sa vie.
Véronique Blanchard, dans la tribune que vous signez dans Le Monde, vous écrivez « La sanction brute se fait toujours prophétie créatrice ». Cette idée de la répression, c'est même chose, quelque chose que l'on a vu et revu depuis des décennies maintenant.
Oh oui, alors là, si on se met sur le temps long des 200 dernières années, le déficit d'éducation est net et le temps majoritaire est consacré à la répression. C'est-à-dire que la France a quand même connu pendant 100 ans des maisons de correction, qui s'appelaient des maisons de correction, des maisons de redressement, et qu'on a appelé dans l'entre-deux-guerres des bagnes d'enfants. On a utilisé à la fois l'enfermement, des mineurs, les punitions corporelles, les punitions d'isolement, de silence. On a beaucoup tenté la sanction forte dans nos institutions depuis les années 1840. Les moments d'ouverture où on fait primer l'éducatif sur le répressif, où on essaye d'éviter l'enfermement, sont des périodes très courtes dans notre histoire. Surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la fin de l'entre-deux-guerres et après les années 45-50, dans les années 60-70. C'est des moments très brefs. Donc, en fait, on a une longue expérience de la sanction, de l'autoritarisme, et je différencierai bien sûr autoritarisme et autorité, parce que l'autorité est très importante avec des adolescents. En revanche, la sanction, la punition, l'enfermement brut, sans accompagnement éducatif, a montré ses limites. C'est-à-dire que dans ces contextes-là, après par exemple 100 ans de maison de correction, on a une montée de la violence des jeunes qui sortent de ces institutions. On a une installation de quelque chose comme des enfants qui ne supportent plus, pour le coup, les règles et le cadre.
Christian Moana.
Je vais très vite, hein, mais...
Alors je passe la parole à Christian Moana.
Oui, enfin, si on prend les 20 dernières années depuis les lois Perben de 2002, on a sans arrêt des textes de plus en plus répressifs contre les enfants auteurs de délits. Et finalement, ça n'apporte pas de sérénité, pas de tranquillité aux gens, puisqu'on voit comment ce souci de la délinquance des mineurs apparaît toujours comme un problème récurrent. Et on voit bien comment, dans le discours qu'on entendait du Premier ministre, on a un mélange des genres entre islamisme radical, délinquance des mineurs, autorité, tout ça, alors qu'on voit bien que c'est des problématiques qui doivent être séparées, qui ne sont pas complètement convergentes. Et d'autre part, ce discours martial, c'est pas de l'autorité, c'est pas en faisant peur aux gens qu'on acquiert une légitimité.
On peut pas décréter l'autorité.
Mais
comme
non,
ça,
on peut pas. L'autorité, quelque chose, c'est pas le rapport de force. Quand je vous menace avec une arme en disant donnez-moi votre argent, c'est pas de l'autorité, c'est de la menace. Et dès que j'aurai le dos tourné, vous allez vous retourner contre moi et à bon escient. L'autorité, c'est quelque chose qui se mérite. Et ce qui est quand même paradoxal, c'est que on voit que les crédits aux structures médicales, à la psychiatrie de secteur, les crédits aux associations ont été supprimés. Enfin, très fortement diminué dès le premier mandat du président actuel. Il y a eu des coupures de crédit vraiment sanglantes avec plein d'associations qui occupaient les jeunes, qui se chargeaient d'eux, qui ont totalement disparu, y compris les structures d'accueil des mineurs plus officielles. On a une baisse des crédits. Donc on est là en se disant, bon, on a fait des économies, il reste quoi? Il reste la répression, on va embaucher des policiers et on va embaucher après peut-être quelques magistrats pour répondre à tout ça. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que la police et la justice ne sont pas capables de répondre à tous les défis de la société si on n'a pas d'autres structures auparavant qui interviennent avant que le jeune ait basculé dans une situation de crise.
Muriel Aiglin, sur les propos de Raphaël Attal et sur ce qu'on entend également souvent de la part du gouvernement, cette idée de la responsabilisation des parents. Qu'est-ce que ça vous évoque ?
Alors, sur la responsabilisation des parents, en fait, la justice des mineurs travaille avec cette question-là quotidiennement. Quotidiennement parce que concrètement, on reçoit les jeunes qui ont commis un acte de délinquance dans notre bureau et on est tenu de recevoir également les parents, de les informer de ce qui est reproché à leur enfant. Et au moment du jugement, s'il y a une déclaration de culpabilité, les parents sont déclarés civilement responsables. Ça veut dire que c'est eux qui vont indemniser la victime. Et de même, la responsabilité des parents, c'est une responsabilité éducative et on demande aux parents d'accompagner leur enfant dans un meilleur respect de la loi, de coopérer à l'intervention éducative auprès du jeune. Ce que je voudrais indiquer, c'est que ces parents démunis ont besoin d'être aidés, encore une fois, et qu'on a des difficultés parce que souvent, on n'en a pas les moyens. Je pense notamment à des situations de jeunes adolescents, soit qui commettent des actes de violence ou qui, par exemple, doivent sortir de leur famille ou de leur quartier parce que ça ne va plus. Eh bien, c'est extrêmement difficile de trouver des lieux d'accueil aujourd'hui. Et chaque jour, on se trouve en panne, je dirais, de trouver des lieux d'accueil parce qu'on n'en a pas suffisamment. Et des lieux de formation. Et je dirais également que les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse, un éducateur doit suivre environ 25 jeunes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait abouti à une accélération du processus judiciaire pénal à l'égard des mineurs avec le code de la justice pénale des mineurs. Ça nécessite qu'il y ait une densité plus importante de l'intervention éducative pour avoir des résultats plus rapides. En fait, il n'y a pas eu de densification et aujourd'hui, il faudrait plus d'éducateurs, il faudrait plus de lieux d'accueil, d'accompagnement, de formation, de qualification professionnelle et pas des lieux repoussoirs, rebuts pour écarter les jeunes, mais des lieux d'excellence, des lieux de formation, des lieux qui permettent de donner un projet et un espoir à ces jeunes.
Véronique Blanchard, ça recouvre ce que vous appelez les réformes progressistes, vous appelez à mettre en œuvre ces réformes progressistes dans votre tribune. Est-ce que ce que vient de dire Muriel Aiglin, c'est un point commun entre vous deux ?
Oui, c'est totalement un point commun. Je pense que l'éducation, c'est multiplier les possibles et c'est donc avoir un maximum de moyens pour entourer ces jeunes. Alors, tout l'arsenal doit être là. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout dans nos propos de dire que la prison peut être évitée. Bien sûr que certains jeunes vont avoir besoin de cet arrêt-là. Donc, la prison doit pouvoir exister. Des lieux ensuite éducatifs de placement doivent pouvoir exister et aussi tout un travail de maillage, de relations avec les parents et les jeunes dans ce qu'on appelle aujourd'hui le milieu ouvert, qui, les statistiques le montrent et les sociologues le montrent, évite dans la majorité des cas la récidive. C'est-à-dire qu'un bon travail de milieu ouvert, c'est 80 ou 85% de jeunes qui ne vont pas récidiver, ce qui ne sont pas les chiffres de la prison. Monsieur Moana sera plus précis que moi, mais vraiment c'est quelque chose aussi que l'histoire nous montre. L'enfermement, la prison et la sanction brute n'ont pas d'effet sur la baisse de la violence des jeunes. Je le dis et je le redis, c'est scientifiquement montré.
Christian Moana, il nous reste deux minutes. La question des moyens, elle est centrale.
Oui, et de mettre les moyens au bon endroit. On a mis beaucoup d'argent dans, par exemple, ce qui s'appelle les établissements pour mineurs, des espèces de collèges où on était censé enfermer les mineurs pour qu'ils soient suivis et qu'ils suivent une éducation. Ces établissements ne sont pas remplis, posent des tas de problèmes de fonctionnement. Le bilan qu'on peut en tirer n'est pas extraordinaire et il coûte extrêmement cher. Et ce qui est quand même à interroger, c'est est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre l'argent ailleurs dans tout ce qu'on a évoqué, les structures, les associations, structures de suivi, centres médicaux, sociaux ou médico-psychologiques. Il y a des tas de choses à faire pour que ces jeunes ne tombent pas dans la prison. Prison qui, très souvent, se révèle comme étant l'école du crime, où on va trouver des gens qui vont vous expliquer comment faire des actes un peu plus graves et qui rapportent plus.
Muriel Aiglin, je vous laisse le mot de la fin. De quoi ont besoin les jeunes que vous rencontrez, vous, au tribunal ?
Les jeunes qu'on rencontre aujourd'hui au tribunal et qu'on rencontrait hier également, ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on les accompagne et qu'on ait des projets ambitieux pour eux.
Et que pensez-vous de la proposition de Gabriel Attal sur l'internat éducatif présenté à Nice en début de semaine ?
Alors, ce que je voulais dire également, c'est que les propositions qui ont été faites de réponse à la délinquance des mineurs, elles existent déjà pour la plupart dans le code, dans les pratiques, de même sur la responsabilité des parents. Les internats scolaires, c'est très bien pour tous les jeunes, pas uniquement pour les délinquants. Ce qui est important, c'est de ne pas donner un message d'exclusion aux jeunes qui ont un problème de délinquance, mais plutôt un message d'inclusion et de construction d'un projet avec eux.
Merci à tous les trois. C'est la fin de ce débat. Christian Moana, sociologue spécialisé dans les organisations policières. Muriel Aiglin, présidente du tribunal pour enfants de Bobigny, vice-présidente de l'Association française des magistrats de la jeunesse et de la famille. Et par téléphone avec nous, il y avait Véronique Blanchard, historienne titulaire de la chaire enfance jeunesse de l'Université d'Angers. Débat préparé, réalisé avec Florence Ponce et Lorraine Nemoza. Merci à elle également. Vous restez bien avec nous sur RFI. Dans un instant, le journal puis décryptage, ce sera avec Clotilde Dumay. On parlera de la domination de la Chine sur le marché de la voiture électrique à l'occasion de l'ouverture du salon de l'automobile de Pékin. Et puis à 20h30, heure de Paris, ce sera Afrique Soir. Bonsoir Sylvie Berruet.
Bonsoir Alexis, bonsoir à tous.
Au programme ce soir.
Alors les pays d'Afrique de l'Est qui sont frappés par de graves inondations, au moins 115 morts en Tanzanie, un chiffre annoncé aujourd'hui, des milliers de déplacés au Burundi. Et nous irons au Kenya à Nairobi où vous l'entendrez, les secours s'organisent pour venir en aide aux sinistrés. Nous parlerons également de ce bras de fer entre Kinshasa et le géant Apple. Kinshasa qui accuse la firme d'utiliser des minerais stratégiques exploités légalement en RDC par des milices armées soutenues par le Rwanda. Enfin, les pays du Sahel dirigés par des militaires rebattent les cartes. Aujourd'hui, on débutait au Niger les discussions sur le départ des forces américaines.
Merci Sylvie, à tout à l'heure pour Afrique Soir. Vous restez avec nous dans 30 secondes, l'info sur RFI.